Mes bien chers amis, pour couronner, dirais-je, l'année liturgique qui touche bientôt à sa fin, l'Église fête le mystère de la royauté du Christ. La fête de la Toussaint qui succédera à cette grande fête nous invite à entrer dans cet état d'esprit de cette royauté. Le symbole royal occupe une place centrale dans l'histoire de la révélation, comme nous le livre l'Ancien Testament. Mais même s'il ne nous est pas interdit d'avoir des sentiments monarchiques, il faut ici, je crois, se situer dans son sens premier régéré, assurer une direction, une rectitude, une règle de vie, de l'être et de l'agir en conformité au roi de l'univers. C'est peut-être ce qui manque à nos monarchies actuelles où la décadence de leur spectacle empêche toute rectitude. La fête du Christ-Roi a été instituée relativement récemment dans l'histoire, en 1925, par le pape Pie XI et sa magnifique encyclique Quas Primas, que je vous invite à lire in extenso. Encyclique ô combien importante pour son époque, comme nous le verrons, mais je dirais aussi pour la nôtre. Il s'agissait pour le pape d'affermir la foi des fidèles face aux idéologies conquérantes de l'époque nationale-socialiste, fasciste et communiste. Ces idéologies n'avaient pas pour but seulement de gouverner la cité terrestre dans une légitime autonomie du pouvoir politique par rapport aux religieux. Elles avaient pour but de modeler un homme nouveau, de régenter toute la vie des personnes et d'imposer par la force leur manière de voir. Elles étaient totalitaires. Rien n'a vraiment changé, et donc il nous faut continuer à prier. Ces extrémismes avaient notamment en commun de proférer la fonction totalitaire de l'État sur le citoyen. Pour les tenants de ces idéologies et leurs dirigeants, leur victoire amenait à exclure la foi chrétienne de la société. La popularité de ces idéologies à partir des années 20 mettait en péril la foi des chrétiens. Il fallait redire une dimension essentielle de la révélation, la foi au Christ n'est pas une vérité subordonnée aux politiques, ni une affaire purement privée. Cette fête a donc un caractère pédagogique. Elle vise à nous rappeler qu'il nous faut toujours nous garder des idoles, c'est-à-dire des idéologies, des manières de penser qui veulent régenter toute notre vie personnelle et exclure notre foi au cœur de la société pour la limiter à la sphère privée. La communauté politique et l'Église, tout en étant indépendantes et autonomes, chacun dans son domaine, sont toutes les deux au service de la vocation personnelle et sociale des personnes humaines. Dire que le Christ est roi, c'est affirmer que dans son humanité glorifiée, le Christ a autorité comme Dieu non seulement sur la terre, mais sur le cosmos tout entier, sur tous ces mondes dont nous connaissons l'existence et sur tous ceux que notre science n'a pas encore découverts. Dire que le Christ est roi, c'est proclamer aussi qu'il est le maître de l'histoire pour tous les peuples et dans tous les temps, et qu'il mène souverainement le destin de chaque homme, de chaque communauté, en faisant concourir tous les événements au bien de ceux qui l'aiment. Dire que le Christ est roi, c'est reconnaître que l'amour du Christ lui donne autorité sur nous. C'est reconnaître que le Christ a le droit de nous aimer comme il veut, autant qu'il veut, et que notre premier devoir est d'accueillir, d'écouter, de recevoir cet amour. C'est aussi reprendre avec courage et bonheur le chemin que librement nous avons choisi pour l'aimer et le suivre, lui dire oui. La fête du Christ-Roi de l'univers en précédant la fête de tous les saints, en donne aussi l'orientation définitive. Au cours de cette année liturgique qui touche à sa fin, nous avons successivement célébré l'attente de la venue du Sauveur, sa naissance parmi nous. Nous avons entendu et accueilli sa prédication, nous avons vécu sa passion et sa résurrection, et enfin nous avons reçu l'Esprit du Seigneur pour vivre de la vie même du Christ. L'ensemble de ces célébrations liturgiques trouve un enracinement historique dans la vie sur terre de Jésus et les commencements de l'Église. Quand nous allons en Terre Sainte, grâce que je vous souhaite, si ce n'est pas déjà fait, eh bien nous faisons bien l'expérience de cette réalité d'une manière très impressionnante. Aujourd'hui, cette solennité a un caractère particulier car elle n'a pas d'enracinement, dirais-je, historique dans les évangiles. Notre Seigneur n'a pas manifesté une royauté temporelle, ce qu'attendait d'ailleurs le peuple juif. Il a simplement dit que sa royauté n'était point de ce monde. Si elle n'a pas d'enracinement historique, c'est parce que nous célébrons un événement à venir, à savoir l'avènement en gloire du Christ Jésus. À la fin des temps, le Christ viendra achever toute l'œuvre de son Père. Il viendra remettre toute la création entre les mains du Père, et Jésus sera établi Seigneur sur toute la création. Et ainsi, tout sera définitivement accompli. En célébrant cette fête, nous voulons signifier que notre vie a un sens qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et qui concerne tous les peuples. Notre vie a un sens, c'est-à-dire qu'elle a une orientation. Elle s'inscrit dans un déroulement voulu. Nous avons un but qui nous est désigné par Dieu lui-même. Notre vie personnelle, comme la terre, n'est pas ballottée par des forces contradictoires, produit du hasard et de la nécessité vers un avenir indéterminé. Notre vie personnelle et la création tout entière tirent leur origine de Dieu et elles trouvent leur fin en Dieu. Notre vie a un sens car elle a un point de départ et un point d'arrivée ainsi qu'une force directrice qui sont l'œuvre de Dieu en nous. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Partageant en tout notre condition d'homme, excepté le péché, il nous a révélé sa gloire sur la croix lorsqu'il nous a aimés jusqu'à la fin. Exalté à la droite du Père, il règne déjà sur l'univers. Même si nous sommes encore dans le temps de la patience qui précède sa venue définitive. Tout au long de l'année, l'Église a médité sur ces saints mystères dont elle a nourri sa prière, son action de grâce, son adoration. Aujourd'hui, elle ravive son espérance et outre les textes de ce jour, nous pourrions citer les psaumes, mais aussi Daniel ou Jérémie, en relisant quelques extraits des Saintes Écritures empreints d'une majesté toute particulière. Nous sommes invités seuls dans notre prière personnelle ou avec l'Église, avec toute la communauté des fidèles, des croyants, à regarder comme Daniel au cours des visions de la nuit de notre foi, c'est-à-dire à la lumière de la révélation, en direction de l'Orient, d'où viendra le Seigneur comme un fils d'homme, couvert de gloire et de royauté. Car il est fidèle le Dieu qui nous appelle, et il ne saurait faillir à sa parole. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront. La fête du Christ-Roi donne déjà l'orientation de ce que doit être notre vie. Des saints, mes amis, des saints, des âmes priantes qui ont le souci de Dieu et de le mettre au cœur de notre vie. À l'approche du temps de l'Avent, ranimons notre espérance en la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ, en participant nombreux à la procession que notre doyenné du centre-ville organise cette année pour la fête de l'Immaculée Conception, une première depuis plus de 50 ans. Elle se fera le 7 décembre au soir. Gardez votre soirée de libre, car faire une procession dans les rues de notre ville n'appartient pas seulement à la dévotion populaire, mais plus encore confesse la royauté même de notre Seigneur, rendue possible par le oui sublime de simplicité de Marie. Je sais que certains fidèles, membres des équipes Cana, seront le 8 décembre à l'abbaye de la Grâce pour leur recollection. Mais je ne voudrais pas que cela soit un empêchement à participer à cette procession qui relève d'un caractère particulier et important pour non seulement la vie de nos paroisses réciproques, mais aussi pour notre diocèse et notre ville. C'est vous, chers fidèles, qui serez les premiers à en recevoir les fruits pour vos âmes. Mes chers amis, qu'il est émouvant de voir le lieu à Nazareth où la bienheureuse Vierge Marie a prononcé ce fiat qui a bouleversé l'humanité. Nous sommes certes dans une église construite récemment et assez moderne et assez laide, mais par contre, ce qui n'a pas bougé, c'est l'entrée de la maison où vivait la Vierge Marie. Et nous voyons très bien où a pu se placer l'archange Gabriel pour annoncer à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et toutes ces vieilles pierres qui résonnent, que l'on peut toucher, que l'on peut voir, que l'on peut baiser respectueusement, eh bien, sont toutes empreintes de la présence de Marie et ce oui qu'elle a donné et qui a bouleversé toute l'humanité en est encore plus beau et plus puissant. Puissions-nous être toujours plus épris de Dieu afin d'avoir la même douceur, la même docilité, le même don de soi à l'œuvre de la rédemption que Marie a eue et ne cesse d'avoir. Mais attention, Marie nous conduit à la croix. Eh oui, elle est co-rédemptrice en portant les stigmates de la passion par les sept glaives de douleur. Elle nous appelle à entrer dans le mystère d'amour qui doit faire mal, comme le disait Mère Teresa de Calcutta. Faire mal, car l'amour, c'est la mort de notre égoïsme. Mais cet amour qui nous conduit à être témoins également de la croix glorieuse, témoins dans notre manière de vivre, témoins en la portant comme si nous portions la croix du Saint-Sépulcre. Vous en avez un dessin sur le drapeau, ici, devant vos yeux. Quand vous la regardez, vous voyez la croix et au-dessus de chaque angle, des petites croix qui symbolisent les quatre évangélistes dans l'unité du Christ. Et les quatre extrémités de la croix symbolisent les quatre points cardinaux. C'est magnifique, ne trouvez-vous pas? En Afrique, nous entendrions « Oui, monsieur le curé, oui, monsieur le chanoine », avec enthousiasme. Mais en France, heureusement qu'il y a parfois les gazouillis des petits-enfants pour exprimer leur joie. Mais j'espère que dans le secret de votre cœur, vous dites oui à Dieu. Car c'est cette réponse qui permet de faire triompher la lumière dans ce monde bien ténébreux. Faisons éclater notre oui afin que la lumière brille, car nous sommes faits, mes amis, pour la lumière. Et j'en veux pour preuve les quatre saisons que nous donne Dieu au moins pour notre continent. Nous aimons l'automne à cause de la magie des couleurs qui dégagent une certaine lumière. La nature se transforme. Il y a une beauté émouvante, elle nous offre dans les forêts comme un tapis avec ses feuilles pour nos pieds délicats. Nous aimons le printemps car la nature se renouvelle, les couleurs renaissent et prennent une teinte unique. Nous aimons l'été où triomphe le soleil, la lumière triomphe dans la nature créée par Dieu. Mais l'hiver, qui peut aimer cette saison sans lumière, sans vie? C'est la saison qui symbolise les ténèbres. Même Dieu est obligé d'envoyer de la neige pour bien signifier que la lumière a toujours le dessus sur les ténèbres. L'homme est obligé de faire du feu pour se réchauffer à la lumière des flammes qui crépitent. Il y a finalement un certain charme qui est source d'espérance, car la grâce triomphe de tout et peut donc rendre belle cette saison. Il en va de même pour notre monde. Il est ténèbres, mais si nous disons oui au véritable amour qui a Dieu pour objet, nous pouvons le rendre beau, comme Fra Angelico peignait la beauté du monde surnaturel sur les murs de son couvent à Florence. Alors, à vos pinceaux, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.